Chez nous, Anishinaabe, on dit Nui Jia. Nui Jia Gan. On dit ça, Nui Jia Gan. Nui Jia. Ça, ça veut dire on est ensemble. Nui Jia Gan. C'est ça que ça veut dire en notre langue. Nui Jia Gan. C'est lui qui marche avec toi, qui me va à un endroit. On y va ensemble. C'est facile d'être ami, d'être Ouija-Organ. On a juste à se regarder, à se parler, puis à marcher ensemble. C'est juste ça.
J'ai grandi entre les canots et les voitures, entre le français, l'anglais, l'Iyuaïmun et l'Anishinaabemowin. J'ai mangé du castor, de la perdrix, de la poutine et des clubs sandwich. Val d'Or. Est-elle venue à nous ou nous l'avons choisie? Elian Kistabish Nitijnikasnan, Nien Anishinaabekwe et la ville est mon territoire. Odena Aki. Épisode 3. La différence. Oh, so be Jack, nigga, beshinan, kiddo, go, come. Oh, so be Jack, nigga, beshinan, kiddo, motion.
La Commission des droits de la personne des Nations Unies vient de reconnaître le caractère discriminatoire d'une partie de la loi canadienne sur les Indiens, c'est-à-dire l'article 12.1b de la loi qui a trait au statut des Indiennes.
Et l'article discriminatoire stipule qu'une Indienne qui marie un non-Indien cesse d'être Indienne, alors qu'à l'inverse, un Indien qui marierait une Blanche continue d'être Indien.
Quand tu maries avec un non-Autochtone, là, tu pouvais plus rester vivre dans ta communauté. Là, moi, le chef était venu me chercher puis il m'a mis au bord du chemin avec mes sacs de plastique, mon linge. Là, il était venu chercher chez mes parents.
Jackie Kistabish est survivante du pensionnat de Saint-Marc de Figuery. Elle est la sœur de Richard et Ginagouzi Kistabish. Habiter en ville n'était pas son choix. Après être sortie du pensionnat à 17 ans, elle habitait dans sa communauté à Picogan.
Quand tu te ramasses dans la rue, là, en dehors de ta communauté, là, tu cherches à trouver un appartement. Dans ça, là, c'était à Amos. Tu n'es pas capable de trouver un appartement. Hein? J'avais un bébé dans les bras. Là.
Jackie Kistabish n'est pas la seule à être déménagée en ville sans choisir. Après avoir vécu dans le bois jusqu'à 15 ans, Virginia Dumont est forcée de se bâtir une nouvelle vie à Malartic, une petite municipalité où elle ne connaît personne, à une trentaine de kilomètres de Val-d'Or. C'était en 1965. Sa fille, Gina Richemont-Mainville, raconte.
Bien, en fait, ma grand-mère, Maggie Poukachich, quand elle a rencontré mon grand-père, George Richmond, en fondant une famille avec mon grand-père qui était non statué, on pense qu'il était métisse, petit Wheezy, on dit, mais on n'est pas certain. À ce moment-là, ma grand-mère, Maggie, a perdu son statut, donc ça a eu un impact sur ma famille, la famille à ma mère, qui n'était pas reconnue comme indien au sens de la loi sur les Indiens.
Les grands-parents de Gina Richemont-Mainville habitaient en forêt. Comme d'autres familles Anishinaabek, ils s'étaient établis au bord de la baie Carrière, un plan d'eau situé au sud de Val-d'Or et de Malartic.
C'est là que ma famille maternelle a grandi. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas allés s'installer à Lac-Simon parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des Indiens. En 65, là, au décès de ma grand-mère, les services sociaux sont allés rencontrer mon grand-père. J'imagine qu'en ville, on devait savoir là, qu'il y avait des Autochtones qui vivaient dans ce coin-là. Et ils ont obligé ma famille à déménager à Malartic. Donc, c'est pour ça que je suis née puis j'ai grandi à Malartic. Ma mère n'est jamais allée à l'école, donc elle ne savait pas lire ni écrire. Mais ma mère maîtrisait tout dans sa langue maternelle, mais elle avait appris un petit peu l'anglais. Donc, quand elle est arrivée en ville, elle ne parlait pas français. Elle parlait en sa langue et l'anglais. Puis c'est moi qui s'occupais du courrier, là.
En juin 1985, le projet de loi C-31 abroge l'alinéa 12.1b de la loi sur les Indiens. Dans les deux années qui ont suivi son adoption, 1155 femmes autochtones et 6974 enfants ont retrouvé leur statut au Québec. C'était le cas de Jackie Kistabiche.
En 1985, quand j'ai eu mon statut, là, j'ai fait une demande pour en avoir une maison. OK. Fait que j'ai eu ma maison. Mais tous ceux qui avaient perdu le statut en 1985, ils pouvaient retourner dans leur communauté. Puis, tu sais, on avait une maison qui nous attendait, une belle maison qui m'attendait. Mais il y avait des conditions, par exemple, que je retourne vivre là. T'sais. Je n'aurais pas le droit de me présenter en tant que conseiller ou bien en tant que chef. Mes enfants ne pouvaient pas aller à l'école sur la communauté, mais dans ce temps-là, ils n'avaient pas encore. Puis, je ne pouvais pas participer aux activités de la communauté. Puis, mon conjoint, dans ce temps-là, mais c'est un blanc, il ne pouvait pas rester avec moi. Oui, je ne sais pas donc. Je pense que je suis bien en ville. Je ne retournerai pas où ce qui m'aurait empêché de vivre, tu sais. De grandir là-dedans, puis que mes enfants grandissent là-dedans, puis... Non. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix de rester en ville, puis je ne regrette pas, là.
Gina Richemont-Mainville était adolescente lorsqu'elle apprend qu'elle et sa mère auront désormais un statut. Elle décide de rester en milieu urbain, là où ils avaient toujours vécu, mais elle déménage dans un quartier de Val-d'Or bien particulier.
Il y avait un projet qui s'appelait Wawate, qui étaient des logements sociaux, des logements primodiques, qui étaient exclusivement pour les Autochtones en milieu urbain. Donc, ma mère avait retrouvé son statut, et puis une demande de logement, et puis on a eu un logement neuf. Donc, ça aussi, ça a changé nos vies.
Les logements Wawate sont situés sur une section de la rue Louise-Lemay à Val-d'Or. L'architecture des maisons ressemble en plusieurs points à celle d'une communauté, et l'atmosphère qu'on y retrouve aussi.
Mais en fait, ma mère avait plus d'occasion de parler sa langue, de un, de cuisiner plus. Quelqu'un avait un mousse, un orignal, ben, il en partageait. Donc oui, je te dirais que ma mère, elle pouvait plus vivre sa culture. Tu sentais que tu appartenais à une communauté qui était Wawate. Tu avais des semblables, là, pareil comme toi. Là, tu voyais que d'autres familles aussi avaient des traumas, avaient des défis, des difficultés. Tu dis, oh, je suis pas la seule. Moi, je pense que ça a contribué à renforcer le sentiment d'appartenance, renforcer l'identité autochtone, urbaine. Moi, je pense que ça l'a aidé à notre sentiment de fierté aussi.
La fierté. Aujourd'hui, je suis fière de mon nom, Kistabiche. Ça démontre clairement que je suis Anishinaabe. À l'école, à Amos, je me suis fait un peu agacer. Mais autrement, je n'ai jamais vraiment vécu de discrimination à Val-d'Or, contrairement à d'autres, comme Richard et Gina Gouzi.
Dans les réserves, nous autres, on était à un moment donné une vingtaine dans une maison au lac Simon, c'était la même chose. On était surpeuplés dans les maisons. Fait que les Indiens, il fallait qu'ils louent des appartements, mais on n'était pas les bienvenus. Ça a été une période très difficile. Moi, mais à Val-d'Or, mais en 87, j'ai voulu me trouver un loyer, un appartement, puis on me louait pas, moi, un appartement. En fait, quand j'ai envoyé un chum pour louer l'appartement à mon nom, puis non, ça marchait pas non plus, cette méthode-là.
Comment se sentaient les premiers Autochtones en ville lorsqu'ils quittaient leur quartier? Qu'ils allaient au restaurant, à l'hôpital ou encore à l'école de leurs enfants? Dave Sergery et Alexis Wawanoloap partagent leurs souvenirs et leurs réflexions.
Ma mère, oui, je pense qu'elle se sentait vraiment beaucoup moins bien quand elle était dans des groupes où il y avait pas d'Autochtones. En général, pas juste de la famille dans ce cas-là, vraiment. Parce que j'ai joué au hockey, fait que c'est sûr que là, on était souvent avec plein de familles non autochtones. Tu sais, on reste quand même dans un milieu qui était principalement non autochtone. Fait que dans ces milieux-là, ça se voyait là, qu'elle était pas bien. Là, c'est plus encore que de se faire petit, c'est quasiment de vouloir disparaître. Ouais.
Parce que c'est sûr que d'être dans un milieu blanc avec un nom puis une face que tu peux pas cacher, ça vient avec, tu sais, on serait le calochera pas. Le racisme à Val-d'Or, il y en avait beaucoup dans les années 80-90, puis on le voit avec les commentaires qu'on entend sur l'itinérance, puis la mécompréhension des gens, d'où leur viennent leurs privilèges de travailler dans les mines, là, que ça vient de la spoliation, de la prise de territoire des Anishinaabés. C'est sûrement difficile à accepter. Puis au départ, le racisme vient de là, d'enlever l'humanité à des groupes de personnes pour justifier cette prise-là de territoire.
Pour pallier cet inconfort, les Autochtones s'approprient certains lieux dans la ville. Comme nous l'avons abordé dans le dernier épisode, le Centre d'amitié autochtone est l'un d'entre eux. Mais il y a aussi une panoplie de restaurants ou d'hôtels qui sont devenus, avec le temps, particulièrement fréquentés par les Anishinaabeks et les membres de la nation Iyu. Selon l'anthropologue Carole Lévesque, le phénomène n'est pas unique à Val-d'Or.
Cette capacité d'occuper un endroit où on arrive à soit se retrouver entre nous, même parfois sans se le dire, hein? Mais ce n'est pas spécifique au monde autochtone. C'est comment on s'installe dans une ville pour ne pas disparaître dans la masse. On se recrée un milieu qui va être relativement sécurisant, où on sait qu'on va toujours rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, puisque les liens interfamiliaux, mais je dirais aussi intercommunautés, sont encore très, très forts. Et c'est comme ça que se créent des lieux qui deviennent des repères et qui, même avec le temps, sont souvent, malheureusement, à la source de réactions de la part des citoyens de la ville, parce que là, ça fait beaucoup de monde en même temps. On est inquiet, on ne sait pas, on ne les connaît pas. Donc, par rapport aux citoyens, c'est un groupe de gens qui vient occuper un espace qu'eux autres pensaient le leur.
Les gens oublient qu'on était ici avant. C'est facile d'oublier ça, parce que ça a été voulu que ce soit comme ça, qu'on nous oublie. Être discriminé, c'est pas pire, c'est grave. Mais être oublié, c'est la pire insulte. C'est la pire insulte. Puis c'est ça qu'on fait tous les jours à Val-d'Or. Tous les jours. C'est ça, c'est vrai, c'est la réalité, ça.
En décembre 2025, Doris Saint-Pierre et Paul-Antoine Martel empruntent le chemin Gabriel Commanda pour nous amener dans un lieu enchanteur de la ville, un géosymbole de la collaboration entre Anishinaabeks et les premiers prospecteurs non autochtones à Val-d'Or.
Nous voici à la source Gabriel.
Oh.
Et un gros, gros voilier de pigeons ici.
Quelques canards.
Oh, un petit canard. Mais les canards, ils passent l'hiver ici. parce que l'eau de la source Gabriel, elle descend jamais en bas, de, elle gèle jamais.
En fait, ici, on est sur le bord d'un... en fait, il y a une source d'eau, puis il y a un petit ruisseau, dans le fond, qui part de cette source-là, puis qui se rend jusqu'au lac Blouin. C'est une eau magnifique, d'une pureté incroyable. C'est clair, 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 clair.
Gabriel Commanda, c'était un Algonquin originaire de la région de Maniwaki, de Kitiganzibi. Et puis, il s'est envenu ici, lui, au début du...
Après la Première Guerre mondiale, je pense. Probablement des années 20, parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale, lui.
Oui, il a fait la Première Guerre mondiale. Et c'était un guide, un prospecteur. Il cherchait des mines aussi. C'est à lui qu'on attribue la découverte de l'or, ce qui est devenu la mine Lamac, là, si on peut dire.
En 1923.
Gabriel Commandeur, on peut dire que c'est le premier citoyen de la ville de Val-d'Or. Il était là au tout début. Et c'est lui qui a fait un sentier qui aujourd'hui correspond à la 3e avenue et ensuite qui monte jusqu'à la future mine Lamac. Alors, puis c'était un type... c'était un bon gars. Tout le monde disait que c'était un bon gars. Il était fort, il était grand, il était fort. Il parlait pas beaucoup, mais dans le livre de Yvon H. Couture, là, la saga de Gabriel, il raconte que Gabriel, il parlait aux ours. Il n'avait pas peur des ours. Il y a même certains racontent qu'il faisait semblant de se battre avec un ours, puis il prenait à bras le corps, puis tout ça.
Il aurait chevauché un orignal aussi?
Oui. Ah oui. Non, c'est un phénomène. C'est un phénomène, puis c'est... Ça, c'est le premier citoyen de Val-d'Or, tu sais. On ne peut pas l'oublier.
Mais Gabriel Commanda a été oublié pendant plusieurs années. Tout le monde à Val-d'Or connaissait la source Gabriel, mais pratiquement personne ne savait d'où venait ce nom. Lorsque son histoire a été mise en lumière, une grande saga a entouré son nom de famille, qui a longtemps été considéré comme étant commandant. Aujourd'hui, il est devenu un grand symbole de l'histoire valdorienne et de relations harmonieuses entre les peuples. Néanmoins, les hommages accordés à Gabriel Commanda sont parfois critiqués par des gens de mon peuple qui regrettent qu'un des nôtres ait contribué à l'exploitation minière sur notre territoire.
Des noms racistes.
On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents.
Oui, c'est important pour moi, là. C'est pour poursuivre la tradition des Anishinaabe.
Chaque mois de mars, depuis 2001, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or organise la marche Gabriel Commanda. C'est un événement où les Autochtones et les Allochtones marchent ensemble pour un même but, dénoncer toute forme de racisme et de discrimination et favoriser un monde plus uni et inclusif.
Des nouveaux, ça veut dire... Accompagner, l'aider.
Mon père, Oscar, qui a été président du Centre d'amitié autochtone pendant 16 ans, y participe chaque année. Il présente la prière d'ouverture et transmet ses connaissances aux enfants et aux adultes marchant autour de lui.
Quand on y va avec quelqu'un, il dit « Go, Dion, je vais aller avec toi, je vais aller t'aider. » C'est ça que ça veut dire.
Les médias sont aussi présents et tendent le micro à Édith Cloutier, la directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.
On doit continuer à investir parce que le racisme est malheureusement encore présent dans notre société. Puis c'est d'ailleurs à travers les enfants, à travers la jeunesse, qu'on va transformer cette société puis de sensibiliser à cette réalité-là.
La marche Gabriel Commanda est un exemple unique au monde d'une continuité, je dirais d'une persévérance dans les orientations, mais aussi une persévérance dans le message qui est livré. On a fait tous les cas, On l'a fait en Afrique, on l'a fait en Nouvelle-Zélande, en Australie. Aux États-Unis, il y a des marches ponctuelles. Mais une marche qui est là, qui continue, qui mobilise à la fois la population autochtone et la population non autochtone, c'est un cas unique au monde. Et ça, il faut le mentionner, le faire comprendre, parce que ça fait partie de la manière dont, à partir des années 2000, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or est vraiment devenu un acteur citoyen de la ville de Val-d'Or.
Depuis la fin des années 70, la population autochtone de Val-d'Or n'a cessé de croître. Selon Statistique Canada, en 2021, nous étions 1050 résidents à Val-d'Or, soit 3,3% de la population. Il y a aussi de nombreux Anishinaabeks et Iyuks qui sont régulièrement de passage. Si on englobe toute la MRC de la Vallée de l'Or, nous représentons 8,7% de la population selon le recensement. Malgré le racisme et la perte de territoire, nous sommes nombreux à croire qu'habiter en ville, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous et nos enfants. En fait, au Canada, plus de la moitié des Autochtones vivent dans des centres urbains. Dans un esprit de décolonisation et de vivre ensemble, comment faire notre place dans cet espace du territoire? Prochain épisode, Odena, notre territoire.
Je suis bien à Val-d'Or, tu sais. Puis même si c'est drôle, ce matin, j'avais une rencontre, puis me posait la question, dire, tu sais, as-tu l'intention de déménager? Ou, tu sais, puis là, j'étais comme, non.
Renforcer le sentiment d'appartenance, renforcer l'identité autochtone, urbaine, moi, je pense que ça, ça l'a aidé à notre sentiment de fierté aussi.
Ici, c'est vraiment, c'est chez moi, puis... J'aime l'esprit valdorien, l'humour valdorien. J'aime les discussions que je peux avoir avec les gens d'ici.
Odena Aki est une production du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. À la réalisation, Émilie Rivard-Boudreau. À la narration, Eliane Kistabiche. Montage, Daniel Brière. La musique est tirée de l'album Nogum Nikamowin, une idée originale d'Emilio Wawate et coproduit par Minwashin et Musique Nomade.